Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libero per il traversone pericoloso, amore! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro! Grosso!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume!
Bonjour Monsieur Anne Crochet, bonjour tout le monde.
Actualité oblige, mon cher Guillaume, on va évoquer aujourd'hui le changement d'entraîneur à Naples avec l'arrivée de Walter Mazzarri, qui remplace donc Rudy Garcia, qui aura tenu 4 mois, en termes de 100... compétition, 3 ouais. mois de compétition, mais 5 mois
152 jours, 152 jours de, la, de sa nomination à l'officialisation de son départ.
Exactement. Exactement. Guillaume, je te propose, pour essayer de structurer un petit peu notre débat, de partir sur le contexte, parce qu'il faut quand même expliquer dans quel contexte arrive Rudy Garcia, ensuite de parler rapidement du mercato, parce que ça a forcément eu une influence sur la saison, et ensuite on fera une sorte de petit bilan sportif en Serie A, en Ligue des Champions, le jeu, les joueurs, un peu tout ça, ça te va ?
Allons-y, mon cher Johan.
Alors Guillaume, le contexte, il est quand même important de le rappeler, même si on va faire assez vite là-dessus. Naples a donc gagné son Scudetto la saison dernière et ils avaient à peine entamé les célébrations qu'on savait déjà que Spalletti ne continuerait pas. Naples a été champion avec un jeu évidemment très spectaculaire. Hein. On en a parlé la saison dernière, Guillaume, et on a vraiment apprécié hein, ce qu'on a vu du côté du Napoli la saison dernière, qui était... Une somme jeu plus résultat tout à fait extraordinaire. Et puis ce jeu a finalement aussi déclenché une adhésion totale de tous les tifosi du Napoli à ce qu'ils voyaient sur le terrain, au comportement de Spalletti, ce qu'ils voyaient des joueurs, etc. Ce titre, c'est le troisième de l'histoire du Napoli, en troisième Scudetto. Pas un club qui est forcément habitué à beaucoup gagner, Guillaume, de trophées majeurs. Ça fait partie de la deuxième rangée des clubs italiens. Hein. On met les trois grands clubs du Nord, Milan, Juve, Inter, évidemment, en tête. Et ensuite, on met Napoli, Roma, Lazio, un petit peu derrière. Et donc, De Laurentiis, quand il a su que Spalletti ne continuerait pas, il a fait un casting de plusieurs coachs, Guillaume. Certains ont refusé, dont Thiago Motta, dont on reparlera. Hein, Guillaume, je pense, dès l'été prochain. Je ne sais pas dans quel club encore, mais vu ce qu'il réalise avec Bologne, on en reparlera de Thiago Motta. Et son choix s'est finalement porté sur Rudy Garcia avec, tu te souviens, au moment de la présentation, on a passé 10 jours ensemble, je crois que c'est une dizaine de jours ensemble, je connais bien l'homme, on a beaucoup échangé, discuté, etc. Ce qui est certain, Guillaume, c'est que c'était un peu à la surprise générale que Rudy Garcia est arrivé, parce que tu sais, il y avait ce petit jeu de plus ça se rapprochait, ah, ça va être un entraîneur français. Tout le monde misait sur Christophe Galtier, tu te souviens ?
Il y a même totalement.
Il y a même des médias qui s'étaient un peu avancés en disant que c'était fait avec Galtier, qu'un contrat en français avait été édité à la Filmauro, la société de production de De Laurentiis. Bah, tout le monde disait, OK, c'est Galtier. Et en fait, c'était Rudy Garcia.
Il y avait eu la une de l'équipe aussi, hein, je me souviens, avec un montage avec Galtier sous le Vésuve.
Ouais.
Donc, c'était vraiment annoncé à l'époque. Et de ce qui filtrait quand même, peu avant l'officialisation de Rudy Garcia, c'est que, c'est une qualité quand même, on le sait que lui a, c'est qu'il est quand même très fort dans les entretiens, qu'il a su être convaincant envers De Laurentiis, et tu le sais, Johan, De Laurentiis, c'est quand même aussi qui marche au feeling.
Ouais.
On en reparlera tout à l'heure, mais là, avec Tudor, bon, il y a eu quelques, peut-être, dissensions quand même de ce que je pouvais lire dans la presse italienne. Ce mercredi, mais voilà, en tout cas, entre Rudy Garcia et De Laurentiis, les premières rencontres ont tout de suite été fructueuses, et c'est aussi pour ça que De Laurentiis a décidé de miser sur lui. Et ce que je souligne tout le temps, vu d'un point de vue, tu sais, franco-français, c'est vrai que tu vois, moi je sais par exemple qu'à Eurosport, mais il m'avait dit, mais pourquoi Rudy Garcia, en France, tu sais la réputation que peut avoir du moins qu'il avait laissé. Mais c'est vrai qu'en Italie, quand même, Johan, il n'avait pas cette réputation-là, tu sais, d'entraîneur un peu, entre guillemets, dépassé, ou du moins, il n'avait pas cette mauvaise réputation, ou ce boulet qu'il pourrait traîner en France. Donc, en soi, ça a été une surprise, évidemment, parce qu'on ne s'attendait pas en Italie à Rudy Garcia, mais c'était pas non plus, comment je pourrais dire, une surprise totale. Il n'y avait pas non plus, Rudy Garcia en Italie bénéficiait encore plus je ne sais pas si d'accord, mais plutôt une bonne cote en Italie, du moins.
Donc, il n'y avait pas de rejet sur le simple fait qu'il était nommé. Alors qu'en France,
voilà.
Toi, à Eurosport, moi, à RMC, on m'a dit, mais Garcia, il est fini, qu'est-ce qu'il va faire là-bas Voilà,
exactement.
Le truc qu'on entend un peu partout en France. Dans le contexte, je l'ai précisé, mais évidemment, quand De Laurentiis a échangé avec plusieurs entraîneurs, on a tout de suite fait remarquer que ce n'était pas le premier choix. Mais je rappelle que Garcia à la Roma, ce n'était pas le premier choix non plus. Et lui, ce qu'il avait dit, parce que je crois qu'on lui avait posé la question en conférence de presse de présentation à l'époque à la Roma, donc ça fait 10 ans, il avait dit « je m'en fiche de ne pas être le premier choix, l'important c'est que je sois là ». Et c'est un peu aussi ce qui s'est passé au Napoli. Guillaume, petit laïus très rapide sur le mercato, parce que mine de rien, ça a une influence quand même sur le déroulé de la saison. Avec Garcia, et ça en aura aussi une avec Mazzarri, hein. D'ailleurs, les deux auront les mêmes contraintes liées au mercato. Même si peut-être on verra que le Napoli bougera cet hiver pour compléter un peu son effectif. Ce qu'on s'est dit, Guillaume, très rapidement, c'est que c'était un effectif champion d'Italie. Et quand tu es champion comme ça, tu as deux choix à faire. C'est soit tu continues exactement avec le même groupe, tu conserves tes meilleurs joueurs, tu estimes que c'est le début d'un cycle et donc que ce qui va se passer derrière ne peut être que meilleur, entre guillemets, puisqu'il y aura encore plus de connaissances, de certitudes, de confiance. Soit tu décides de renouveler déjà un petit peu l'effectif. Finalement, De Laurentiis, il a pris la première option, puisqu'il n'a perdu que Kim, parce qu'il y avait une clause, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette clause, je ne suis même pas certain que De Laurentiis aurait souhaité vendre Kim. Et il l'a remplacé par Nathan, le défenseur brésilien. Et sinon, il y a une arrivée un peu coûteuse, c'est Lindström. D'ailleurs, tactiquement, ça posait beaucoup de questions, parce que ce n'est pas vraiment un joueur adapté au 4-3-3 et... On l'a vu, hein, Garcia l'a très peu utilisé. Alors, peut-être que c'est que Garcia aurait dû plus l'utiliser ou pas, je ne sais pas. Mais le mettre sur le côté droit, ça fait des années et des années qu'il n'a pas joué sur le côté droit. Par exemple, le poste de latéral droit, il n'est pas vraiment doublé, Guillaume, encore aujourd'hui dans l'effectif. On va nous dire, oui, Zanoli, ok, mais bon, entre les Di Lorenzo et lui, il y a quand même une grosse, grosse marge. Tu vois, ce n'est pas comme le côté gauche où entre Mario Rui et Oliveira, tu peux dire Blanc-Bonnet, tu vois, bon. Il n'y a que 4 défenseurs centraux, avec notamment dans les 4 Ostigard et Juan Jesus, qui ne sont pas non plus des cracks, même si Ostigard, je trouve, c'est peut-être, on en parlera tout à l'heure, hein, Guillaume, mais c'est peut-être l'un des joueurs qui a le mieux répondu avec Garcia, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Ostigard. Et dans les milieux, bah, il n'a pas été renforcé en qualité. Il y a eu une chaise laissée par Ndombele qui a été prise par Kajust, Jens Kajust, le Suédois, mais sinon, il n'a pas été vraiment renforcé en qualité. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce mercato, même si des joueurs ne sont pas partis, il y a eu des tensions liées à certaines offres difficiles à refuser, que De Laurentiis a refusé. Il y a eu aussi, c'est compliqué, Guillaume, un après Scudetto quand c'est pas prévu. Hein. C'est dur, quel que soit le pays. On l'a connu en Italie, évidemment, en France, en Angleterre, en Allemagne, partout. En fait, quand tu n'es pas programmé pour ça, que tu n'as pas les structures, l'organisation, le fonctionnement d'un très grand club, où c'est en fait une routine de gagner un grand titre, c'est compliqué parce que derrière, bah, y a eu l'euphorie et il faut gérer bah, la descente d'euphorie. Il y a des attentes qui sont plus élevées, il y a des joueurs qui s'attendent à être mieux payés. Bref, il y a eu quand même beaucoup de choses aussi, Guillaume.
Exactement, mais surtout à Naples, Johan, en Italie. Voilà, c'était un environnement et une piazza qui n'avait plus l'habitude de gagner depuis 30 ans. Le Scudetto, c'est quelque chose qui est très attendu. Et surtout, tu l'as dit, le Scudetto arrivait après une saison magique. C'est-à-dire qu'il y avait le jeu. Voilà, quand j'ai feuilleté un peu les journaux au lendemain du licenciement de Garcia, il y a eu beaucoup d'éditos très durs envers Garcia, mais ce qui ressortait un peu, évidemment, c'est aussi les fautes de De Laurentiis, hein, on va l'évoquer. Mais c'est vrai que la saison dernière avec Spalletti, c'était vraiment un orchestre parfait. Voilà, qui partout où vraiment où il allait, réciter du football. Alors, il y a eu des moments plus compliqués, hein, notamment à la reprise post-mondiale, la défaite contre l'Inter, mais ça n'a jamais vacillé. Et c'est, voilà, c'est vraiment un ensemble qui a fait quand même que Garcia, et ça, tout le monde l'a souligné, à Naples aussi, c'est qu'il a eu le courage quand même de dire oui, parce que des entraîneurs ont dit non, parce qu'ils savaient bien que c'était presque perdu d'avance. C'était tellement une saison impossible à répéter que tu pouvais forcément faire moins bien. Parce que imaginons, même si tu venais à gagner le titre, à le confirmer, ce qui aurait déjà été exceptionnel, hein, mais tu n'aurais pas confirmé de la même manière que l'avait fait Spalletti. Donc, ça aurait été quand même très compliqué pour n'importe quel entraîneur. Garcia a eu ce mérite-là d'accepter de ce défi. Et malheureusement, voilà, il a eu des difficultés, beaucoup de difficultés. Et voilà, l'issue et l'épilogue qu'on a connu dimanche face à Empoli et mardi du coup lors du communiqué du club pour signifier son départ, et donc c'était quelque chose quand même qui était assez attendu depuis Johan la trêve d'octobre dernier.
Alors je précise, Guillaume, même sur un point sémantique, Rudy Garcia est toujours sous contrat au Napoli.
Ah oui,
parce qu'on sait
ah
très oui. bien qu'en Italie on ne casse jamais les contrats en attendant qu'un entraîneur retrouve un club et en espérant payer le moins d'indemnités possible. Il a été, on va dire, écarté de l'équipe première, mais il est resté, évidemment, sous contrat. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, hein, parce qu'on sait qu'il y a des passionnés, des mordus de Serie A qui nous écoutent, mais il y a aussi des gens qui découvrent un petit peu le championnat italien. C'est un point à préciser, évidemment. Guillaume, tu parlais de... On va se pencher un peu sur le sportif maintenant, parce que c'est limite le plus intéressant, mais je trouve que le contexte est intéressant. Tu vois, tu as parlé aussi des fautes de De Laurentiis, on y viendra un petit peu, mais tu sais, je lisais évidemment, il y a beaucoup d'éditorialistes qui sont très influents à Naples, et il y en a même qui ont quand même précisé que même Spalletti n'aurait pas fait aussi bien que la saison dernière, tu vois. Il y a quand même eu une prise de conscience tardive, je trouve, parce que les attentes qui étaient autour, qui entouraient cette équipe du Napoli, pour moi, étaient totalement démesurées de la part de ce que tu appelles et ce qu'on appelle la piazza. C'était vraiment démesuré, tifosi, journaliste, éditorialiste. Espérer que le Napoli puisse jouer le titre cette saison, ça me paraissait totalement impossible. Déjà parce que ce n'est pas le cas chaque saison. Et ensuite, parce qu'on savait très bien qu'il y a des clubs qui sont un peu loupés la saison dernière et ça n'allait pas être le cas cette saison. Et qu'il y avait en plus cet après Scudetto à gérer. Guillaume, Serie A, petit bilan, 6 victoires, 3 nuls, 3 défaites en 12 journées. Tu sais ce qui m'a marqué le plus? Il y a un point commun entre les 3 défaites du Napoli en championnat. Est-ce que tu sais quel est ce point commun?
Est-ce qu'elles sont pas toutes à domicile? Non?
Oui.
Non? Ouais, sans doute à domicile.
Il y en a un deuxième de point commun, c'est qu'elles sont toutes les 3 arrivées le match qui précédait la trêve internationale.
Donc là, c'était Empoli avant octobre.
Il y a eu la Fiorentina et la Lazio.
Ah oui, exactement.
La Alors, Fiorentina. Je ne sais pas quoi en tirer de ça. Mais je ne sais pas d'ailleurs s'il y a quelque chose à en tirer finalement. Mais je voulais le préciser parce que c'est peut-être pas anodin qu'avant chaque trêve internationale, finalement, le Napoli se soit raté à domicile.
Ouais. Oui,
point
surtout,
de vue calendrier,
bah après...
Guillaume, je précise juste point de vue calendrier, parce qu'il n'y a que 12 journées tu vois, de fête. Donc, il faut toujours regarder un peu qui ils ont affronté, le Napoli. Il leur restait à affronter l'Inter, la Juve, l'Atalanta et la Roma chez les gros clubs. Donc, calendrier équilibré, on va dire, parce qu'ils ont joué du coup Milan, Lazio et Fiorentina, si on les met un petit peu dedans, mais il restait aussi quand même pas mal de gros à jouer. Deuxième meilleure attaque de Serie A, sixième meilleure défense. Je passe direct sur la Ligue des Champions parce que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre ce qu'on a vu en championnat et en Serie A. Comme ça, on fait le bilan chiffré. Après, on passe à l'analyse. Deux victoires, un nul et une défaite en quatre matchs. La défaite étant contre le Real. Deuxième avec du groupe avec 7 points. 4 points d'avance sur Braga, qui est troisième, que le Napoli va recevoir d'ailleurs. Et je ne l'ai pas précisé, je crois, mais le Napoli était quatrième de Serie A au moment du dernier match, après le dernier match de Rudy Garcia à Naples. Et donc, point de vue comptable pur, quatrième de Serie A et en passe de qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on pourrait dire, juste en regardant précisément que le chiffre, on pourrait dire ils sont dans les clous.
Oui, pas catastrophique du tout.
Exactement, et c'est dans les clous parce que finalement, être dans les quatre premiers, pour moi, c'est l'objectif réaliste du Napoli cette saison. Peut-être que pour d'autres, c'est pas suffisant. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est l'objectif réaliste.
Bah, tu sais, on en avait déjà évoqué parce que de Rudy Garcia, hein, j'invite les auditeurs à écouter d'autres podcasts. On avait déjà évoqué ce cas-là récemment. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fond parce que. Et d'ailleurs, Johan, entre parenthèses, si Spalletti est parti, c'est parce qu'il savait aussi que c'était une saison qui était impossible à refaire. Et d'ailleurs, il est parti juste après les festivités. Il n'y a même pas eu un moment d'attente ou de réflexion. C'était instinctif. Et on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout la sélection italienne pour le récupérer. Hein. Il était parti pour prendre une année sabbatique. Voilà, parenthèse refermée. Mais sur le fond, je suis d'accord avec toi sur la volonté de forcément de finir quatrième. On va dire que c'était le minimum syndical ou l'objectif de la saison. Et d'ailleurs, De Laurentiis l'a dit. Mais si je mets du côté des tifosi, alors un côté plus irrationnel et moins, on va dire, moins calculateur. Quand tu as le scudetto sur la poitrine, sur le pet, forcément, c'est compliqué de ne pas vouloir le garder. C'est quasiment la même situation que l'AC Milan l'année dernière, hein, où le club était reparti pour c'est soit gagner le titre, soit faire les quatrièmes, dans les quatre premiers. Donc il y avait aussi cette hésitation sur l'objectif clair, mais.
Et moi, je tenais le même discours avec Milan. Pour moi, post-scudetto, c'était les quatre premiers.
Je peux être d'accord avec toi, mais toi, je peux comprendre aussi les supporters qui, une fois touchés au graal suprême du scudetto, surtout à Naples après 30 ans de disette, forcément, avec Osimhen, avec Vara, qui ont touché les étoiles la saison dernière, forcément, tu t'attends quand même à le regagner ou du moins à lutter pour le conserver. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, t'es à 10 points à l'Inter, ça paraît un peu plus compliqué, mais je suis pas certain que ce soit vraiment les résultats, mais t'as bien fait de le dire, parce qu'on a replacé le contexte. C'est pas tant les résultats qui ont joué.
Exactement.
Mais c'est aussi le contenu, Yoann.
Oui, exactement.
Eh ben, écoute, moi, ce que je peux te dire, en tout cas, de mon avis, sur ce que j'ai vu, moi, déjà, le premier match, tu sais, de la saison du Napoli, c'est sur la pelouse de Frosinone.
Oui.
Et déjà là, bon, alors, tu vois, ils sont rapidement menés, ils prennent un but très rapidement, un penalty. Déjà là, j'avais quand même vu quelques différences assez évidentes avec le Napoli de Spalletti. Mais, moi, ce qui m'a le plus marqué, si tu veux, sportivement parlant, alors, on est sûr et en dehors du terrain, parce que Garcia aussi, en dehors du terrain, a été, on va dire, a une communication parfois compliquée. Mm-hmm. Moi, si tu veux, ce qui m'a marqué un peu, c'est sa volonté de couper net avec la précédente gestion. Au point que lors de sa première conférence de presse, je l'ai regardé avant qu'on enregistre, il a cette phrase qui m'avait marqué et qui a marqué aussi Anna, parce que voilà, pour un papier, c'est parce qu'il y a le coup de fil à Naples de journalistes sur place, parce que tu sais, Naples, c'est vraiment un environnement qu'il faut toucher, qu'il faut comprendre,
Ouais.
avec des personnes, voilà, qui sont là-bas. Et ça, que cette phrase, il lui avait dit, moi, le passé, je ne le connais pas.
Oui.
Tu vois, ça avait marqué les gens, en disant, bah, le groupe, en gros, des joueurs, bah, c'était pas vraiment senti, reconnu à sa juste valeur,
Ouais,
parce que quand même,
valorisé, ouais.
oui, exactement, parce que, bah, voilà, c'était quand même un groupe qui avait fait quelque chose d'exceptionnel la semaine dernière. Le public non plus, Johan. Parce qu'on peut dire quand même que le public l'année dernière a eu aussi une partie prenante dans cette victoire du titre, parce que voilà, le public de Naples c'est vraiment le 12e homme et ils ont porté cette équipe-là au titre. Et plus généralement, du coup, à cet environnement napolitain qui venait d'une fête grandiose avec une gueule de bois, après le départ de Spalletti, après le départ de Giuntoli, et t'as quelqu'un qui arrive et qui veut vraiment couper avec ce qui a été fait avant. Ben voilà, je l'ai ressenti déjà dès sa première conférence de presse où il l'a dit. Et c'est vrai que lors des premiers matchs et lors justement de ce match que j'évoquais à Frosinone, tout de suite, j'ai vu une espèce de quiproquo entre le groupe de joueurs et son entraîneur qui, pour moi, venait, tu vois, du coup, justement, du hors terrain par vraiment ce que voulait inculquer Garcia et par la volonté, en fait, de couper le cordon avec Spalletti, dont les joueurs, Johan, étaient quand même très proches. On
Ouais,
sait
et
le lien que peut
puis.
créer Spalletti, ils étaient très, très proches.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et puis ce qui n'a pas aidé, et un deuxième truc lors de cette fameuse conférence de presse, c'est qu'à aucun moment il n'a cité le nom de Spalletti. Tu vois, comme
C'est vrai,
il
ouais,
voulait
bien sûr, bien
totalement
sûr.
écarter l'héritage que lui laissait Spalletti. Alors certainement,
Est-ce
c'est
que
le
je peux te poser
rapproché.
une question, Johanna, à ce sujet? Est-ce que,
Dis-moi.
à ton avis, toi aussi qui connais bien l'environnement romain, alors est-ce que
Ah.
c'est vraiment une volonté, ou alors, on va dire, une maladresse peut-être de Garcia, voilà, si on a l'esprit un peu plus pur, mais en rappelons que quand Garcia part de la Roma en
Oui.
2016, janvier 2016, il est remplacé par
Ouais.
le revenant Spalletti. Est-ce que tu penses que cette inversion, du coup, a pu jouer aussi sur le fait que Garcia veuille couper autant avec la gestion Spalletti, qu'il avait remplacé à l'époque?
Alors, c'est justement ce que je m'apprêtais à dire, c'est qu'à
Ah.
Rome, on avait beaucoup évoqué cette succession qui aurait fait que Garcia en voulait à Spalletti. Moi, j'ai clairement pas d'infos là-dedans, donc je vais pas du tout m'avancer. Le coup de la maladresse, je pense pas, parce que Rudy Garcia est quand même quelqu'un de très préparé, et donc j'ai aucun doute sur le fait qu'il avait préparé cette conférence de presse-là. Je pense plutôt que c'était volontaire de pas citer Spalletti, mais pour quelle raison, je ne sais pas. Il y a, dans cette conférence de presse, il y avait beaucoup de choses, hein, souviens-toi. Il avait tout de suite précisé, moi je suis là pour que les joueurs ne s'endorment pas. Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose de couper avec le passé, tu vois, cette idée de bon, bah, ce que vous avez fait, ok, mais maintenant c'est fini, ça, faut pas s'endormir, tu vois. Il y avait vraiment cette volonté de trancher, effectivement, à la fois dans le jeu, on va y revenir, mais aussi dans toute la mise en forme, quelque part, que j'ai trouvé, moi, un petit peu bizarre. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien lui poser la question là-dessus, tu vois, par exemple, à Rudy Garcia. Parce que tu sais, c'est un peu comme si je trouve hein, qu'il s'était tellement focus sur ne pas s'endormir, ne pas s'endormir. Tu sais, le fameux panciapiena qu'on dit en permanence pour un club qui est sacré, on le disait pour le Milan récemment, notamment encore plus pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, enfin, qui n'ont pas l'habitude de gagner. Milan a une riche histoire, mais avant ce Scudetto-là, ils n'avaient plus l'habitude de gagner. Donc, c'est fameux, la fameuse histoire du ventre plat, en gros. Bah maintenant qu'on a bien mangé, on n'a plus faim. Et donc maintenant qu'on a gagné le Scudetto, est-ce qu'on va avoir la même volonté, le même acharnement, la même éthique de travail pour aller chercher un deuxième titre? Mais je trouvais justement qu'il y avait eu trop de choses liées à ça et peut-être pas assez au jeu. Tu vois, peut-être comme s'il avait voulu plus miser sur cet aspect-là que sur le jeu, parce que pour faire la bascule sur le jeu, Guillaume, Moi, je refuse de comparer avec la saison dernière pour les raisons qu'on a évoquées, toi et moi, dans le contexte. C'est que c'était tellement extraordinaire que c'est impossible à reproduire. Et de toute façon, Rudy Garcia n'est pas Spalletti. Donc, déjà, de fait, en fait, ce n'était pas quelque chose de facilement copiable, entre guillemets. Évidemment, donc, une fois que j'ai dit ça, évidemment que le jeu était peu spectaculaire, que je trouve qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas assez mis en valeur ou que leur qualité n'était pas assez mise en valeur. Je pense que quand tu joues aujourd'hui avec un Lobotka, tu es quelque part obligé d'avoir un football qui le met lui en valeur parce que la mise en valeur individuelle de Lobotka va mettre en valeur ton collectif. Et moi, je pense que Rudy Garcia, il aurait presque dû dire, bah en fait, vu le type de football que je veux jouer, je n'ai pas besoin de Lobotka. À ce moment-là, mets quelqu'un d'autre, tu vois. Mais en fait, voir Lobotka courir après le ballon ou le voir tenter beaucoup plus de passes verticales et moins dicter le tempo, par exemple, il y avait comme une espèce de mismatch entre ce que voulait Garcia et ce que pouvait proposer Lobotka. Le manque de contrôle dans certains matchs vient aussi du fait que Lobotka n'était pas au cœur du football, au cœur de la construction du jeu comme l'était comme il l'était avec Spalletti. Je sais pas si tu es d'accord avec ça.
Si, si, absolument. Et tu vois, quand j'ai passé justement ces coups de fil, on m'a dit, texto, il y a eu une succession d'incompréhensions technico-tactiques. Vraiment, on sentait, tu sais, des joueurs qui ne comprenaient pas ou qui n'adhéraient pas à ce que voulait proposer Garcia, qui, on vient de le dire, avait voulu vraiment couper net avec le passé. Et des joueurs vraiment. Et ça s'est traduit souvent, Johan, par de la colère aussi, hein. La colère de Victor Osimhen à Bologne, la colère de Kvaratskhelia à Gênes quand il sort, la colère de Politano aussi quand il est arrivé sur le banc. En plus d'un jeu bah, qui a été modifié dans ses profondeurs, alors que De Laurentiis, si tu t'en souviens, il avait choisi aussi Garcia parce qu'il voulait le 4-3-3. Il voulait une continuité là-dessus. Mais bon, le 4-3-3, c'est un schéma. Mais si t'as pas les mêmes principes ou les mêmes concepts, comme tu l'as dit, c'était pas possible de refaire pareil que Spalletti. Donc, Garcia a tenté d'imposer sa patte, mais je pense que les joueurs avaient tellement été séduits et ont
Ouais.
tellement inculqué les mécanismes de Spalletti qui vraiment a cette capacité, Johan, à rentrer en symbiose avec ses joueurs. Hein.
Bien sûr.
Et il s'était imprégné vraiment de ce que voulait Spalletti. Donc ce qu'aurait dû faire Garcia, et je le dis alors que j'ai jamais été entraîneur, j'ai jamais gagné un titre avec Lille. Voilà, je lis d'un point de vue purement journalistique et purement d'observateur, mais c'est ce que disent aussi les éditorialistes en Italie, c'est de continuer un peu sur ces bases qui avaient été posées, et une fois le groupe, même moralement en main, tenter bah, là justement d'imposer ta patte. Et petit à petit, un principe par-ci, un principe par-là, modifier deux, trois choses sur le terrain. Et tu l'as dit, le Lobotka, c'était le symbole. Combien de papiers j'ai lu sur l'utilisation de Lobotka dans les colonnes du Matin, tu sais, le quotidien de Naples, qui disait on ne comprend pas comment Lobotka est utilisé. Alors que l'année dernière, c'était bah, l'une des pièces maîtresses du Napoli de Spalletti. Et ça a fait partie justement des incompréhensions que j'évoquais juste avant. Donc, il y a vraiment eu bah, des différences de point de vue entre le groupe de joueurs et Rudy Garcia. Et alors voilà, ça a été sauvé parfois par des victoires, bah, comme la première. Tout à l'heure, j'évoquais Frosinone avec une victoire in extremis. Hein, il me semble qu'ils avaient gagné 3-2. Il y a eu des moments quand même où on a vu des bribes
Mais tu
d'un
sais, contre
Napoli,
le
on va dire,
Real,
un peu plus
notamment,
gentil.
le Real, c'est un des meilleurs matchs
Oui!
du
Bien
Napoli, hein.
sûr, quand il part 3-2, voilà, sur une énorme frappe, alors voilà, qui a bondi sur Meret, ça manquait de chance, mais on voyait que parfois, tu sais, le Napoli pouvait sublimer. Hein, on voyait des restes un peu de, bah voilà, on pouvait pas non plus avoir une équipe qui s'était totalement transformée, mais ce qu'on reproche vraiment en Italie à Garcia, c'est de, bah, d'avoir voulu tout changer tout de suite et de, en fait, d'avoir cassé la mécanique. Trop vite, trop rapidement, et c'était pas possible en 150
Mais
jours,
alors,
152 jours exactement,
la question à
de pas,
100 000 euros,
ouais.
Guillaume, là-dessus, c'est
Tu
que
me les
si.
donneras vraiment, les 100 000 euros?
Absolument pas, bien sûr. Sauf si ta réponse
Dis-moi.
me séduit particulièrement, et là, je peux
Ah,
faire un
eh ben,
effort.
écoute, je vais sortir ma plus belle réponse, mais je t'écoute.
Si tu veux être dans la continuité du jeu prôné par Spalletti. Est-ce que tu vas chercher Rudy Garcia ?
Mais non, mais tu sais que l'une des erreurs de Laurentiis, et c'est Paolo Condo, le grand journaliste et consultant en Scalitella, qui l'a écrit en disant « On ne comprendra jamais, je cite, on ne comprendra jamais pourquoi De Laurentiis a été dire partout sur la place publique que Garcia était un troisième choix. Mm. » Il a dit à tout le monde que Garcia, ce n'était pas son premier choix. Le premier choix, Johan, c'était Italiano. Il y a eu beaucoup de contacts avec la Fiorentina. Mais finalement, les deux clubs étaient, voilà, sur, s'entendent très bien, hein, Joe Barone et Rocco Commis de la Fiorentina et De Laurentiis à Naples. Ils s'entendent très bien. Et De Laurentiis n'a pas voulu froisser ses amis, on va dire. Donc, il n'a pas poussé, on va dire, les discussions, mais il y a vraiment eu quelque chose. Il y avait Thiago Motta, tu l'as dit aussi. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'idées. Il y a même eu une tentative pour Conte déjà à l'époque. Et Garcia,
mais tu vois, c'est pas tant le fait que ça soit pas le premier choix. C'est juste de continuité de jeu. Parce que effectivement, Thiago Motta, Italiano, ça correspondait mieux. Tu vois, Conte, ça correspond pas du tout non plus avec
pas
Spalletti.
Du tout, bien sûr. Ouais, ouais.
Donc, à la limite, va chercher. T'as eu un refus de Thiago Motta et d'Italiano de la Fiorentina, ok. Mais continue dans cette voie-là et trouve d'autres entraîneurs. Il y en a d'autres entraîneurs
sais,
qui ont ce type de football-là.
De Laurentiis s'est vraiment fixé, de ce que j'ai pu comprendre, avec son 4-3-3.
Oui, mais ça c'est absurde, Guillaume.
Ah, mais bien, mais je te dis pas l'inverse. Mais de ce qui se traduit encore aujourd'hui, et tout à l'heure, on parlera du successeur de Rudy Garcia, mais tu vois, quand il a discuté avec Mazzarri, il a encore insisté sur ce 4-3-3-là, sans chercher dans les profondeurs. Parce qu'évidemment, qu'un 4-3-3 se dérive sous plusieurs formes, avec ou sans ballon, les joueurs, le dépassement de fonction. Évidemment que ce n'est pas seulement un système tactique, c'est beaucoup de choses, mais lui s'est vraiment focalisé sur ce 4-3-3. Il voulait un entraîneur 4-3-3 sans rentrer dans les profondeurs, dans les principes. Et comme tu l'as dit, il était impossible à répéter. Parce qu'ils étaient tellement parfaits avec Spalletti, c'était pas possible de faire. Mais disons que tu aurais pu avoir plus de continuité qu'en rappelant Rudy Garcia. Johan aussi, il faut le dire, Rudy Garcia, voilà, il était plus vraiment dans le giron européen depuis quelques années maintenant. On l'avait aussi perdu de vue en Italie. Rappeler Rudy Garcia sur le titre des champions d'Italie pour la continuité d'une saison qui était exceptionnelle avec Spalletti, c'était un pari en lui-même. Mais comme tu l'as dit, c'est certain que.
Mais c'est une névrose, le 4-3-3.
Bien sûr. Voilà, je suis d'accord.
Tu sais quoi, ça va devenir vraiment une limite aussi à un moment donné. Hein.
Bah, en tout cas, c'est ce qui filtre. Voilà, tu l'as lu comme moi. Hein. C'est vraiment ce que lui veut.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le passage du Rudy Garcia ? Malheureusement, l'échantillon n'est pas énorme non plus.
Non, bah 16 matchs. Hein.
Ouais, 16 matchs.
Compétition confondue. Non, tu as bien fait de le préciser. Évidemment que ses fautes, il les a, mais voilà, c'est pas tout pour lui. De Laurentiis les a commises. Autant De Laurentiis, vraiment, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons choix ces dernières années sur plein de choses. Mais là, il accumule les mauvais. Donc, évidemment, tout n'est pas de la faute de Rudy Garcia, mais disons quand même qu'il y a mis du sien. Et on va pas se mentir, Johan, depuis, on va dire, plusieurs mois. La trêve d'octobre, vraiment, ça a été on va dire, Johan, avant, un après, hein. Moi, on avait parlé, toi et moi, dans le précédent podcast sur Napoli, j'avais parlé d'un entraîneur sous tutelle, c'est exactement ça. De Laurentiis était à Castelvolturno, il assistait aux entraînements. On sait tous, en octobre, qu'il a tout fait pour appeler Conte. Il lui a dit, du coup, il a conservé Garcia, mais lui a décidé de revenir en première ligne au Napoli.
Mais tu vois l'incohérence totale, Guillaume. En octobre, t'arrêtes pas de répéter partout que tu veux du 4-3-3. En octobre, tu veux Conte, qui joue depuis 15 ans avec une défense à 3. Et en novembre, tu veux Tudor, qui depuis des années joue avec une défense à 3. Et ça va me permettre de faire la bascule. Tu prends un entraîneur intérimaire, court terme, on va dire plutôt, jusqu'à la fin de la saison, qui est aussi sur le modèle de la défense à 3 depuis des années. Sauf que Mazzarri, qui remplace Garcia, sera peut-être beaucoup plus flexible, c'est même certain, qu'un Conte et qu'un Tudor, tu vois. Donc, non, évidemment, t'as l'impression que c'était joué d'avance, en fait, dès le départ,
voilà.
Parce que le truc, pour moi, qui est essentiel, c'est que passer après Spalletti, et moi, j'en avais parlé à RMC, avant même que Garcia soit nommé, dès qu'on a su que Spalletti partait, j'avais dit, le mec qui va arriver, bon courage à lui, en fait. Parce qu'on va toujours le comparer à Spalletti, on va comparer les résultats, le jeu, les joueurs qui étaient matrixés par le jeu de Spalletti. Va falloir qu'ils y mettent beaucoup du leur pour que ça se passe bien avec le nouvel entraîneur, ce qui n'a pas été le cas non plus, parce qu'on Évidemment que Rudy Garcia a plein de choses qui n'ont pas été par ses choix, par ses options prises, par sa communication aussi parfois. Mais il y a des joueurs aussi qui n'ont pas tout fait non plus, je pense, pour être performants sous Garcia. Il y a des joueurs dont le niveau a clairement chuté et ça ne peut pas être qu'un style de jeu. Et donc, c'était clair que c'est pour ça que je dis que c'était joué d'avance. En fait, il y avait beaucoup trop de facteurs négatifs pour l'entraîneur qui allait arriver. Guillaume, Walter Mazzarri.
Bah, dis-moi ce que tu en penses sur tiens, de ce choix quand même. Est-ce qu'on peut dire de assez improbable, hein, t'es oui, passé de Spalletti, de Spalletti la saison dernière à Rudy Garcia. Alors, dans le domaine de l'improbable, c'est déjà quand même un premier pas. Mais alors là, un deuxième, ouais. J'ai envie de dire quasiment même plus grand. Parce que là, vraiment, bah, Rudy Garcia, c'était déjà un grand. Mais alors là, Walter Mazzarri, personne ne s'y attendait. Je recontextualise rapidement, Johan. Igor Tudor a été la priorité visiblement, était en pole position du moins lundi, donc le lendemain de la défaite contre Empoli. Il rencontre De Laurentiis à Rome, mais visiblement ce qui a bloqué avec Tudor, c'est que lui, logiquement, Johan, j'ai envie de dire, avait envie de s'inclure, enfin s'inscrire plutôt dans un projet de durée, c'est-à-dire qu'il voulait pas rester jusqu'à la fin de la saison, un contrat de 7 mois et puis après on se dit au revoir. Lui voulait une option de prolongation, liée à certains objectifs. Ce que visiblement De Laurentiis a accepté, mais finalement il n'avait pas envie. Et je vais citer la phrase aujourd'hui du Matin, qui résume plutôt bien la chose, c'est que De Laurentiis ne voulait pas hypothéquer le futur. Donc il voulait vraiment se laisser une liberté en fin de saison pour choisir probablement Conte, Italiano, Thiago Motta. Voilà, il y aura un autre entraîneur l'année prochaine, mais il voulait vraiment avoir les mains libres en juin prochain. Donc Tudor est passé en deuxième position. Walter Mazzarri a rencontré De Laurentiis mardi. Les deux se connaissent depuis une vie. C'est très bien passé. Et le choix a été fait. Contrat Johan jusque juin 2024. Et c'est officiel depuis mardi. De Laurentiis. Je voulais dire, tu vois, le lapsus. De Laurentiis, c'est l'entraîneur du Napoli. Mais non.
Oui, ça va être un peu
bien,
ça.
C'est bien Walter Mazzarri, Johan, qui est l'entraîneur du Napoli. 10 ans après son premier passage. Hein. Voilà, il était parti en 2013. Et le revoilà, mon cher Johan. En 2023.
Je sais même pas par où commencer.
Eh ben, il faut commencer.
Ouais, exactement. Non, mais tu sais, l'idée de garder toutes les cartes ouvertes pour le futur, ça veut dire que c'est un parti pris de dire cette saison elle est foutue. Parce que aujourd'hui, quelle garantie tu as que Mazzarri fera mieux que Garcia? Avec Tudor, ça pouvait clairement se discuter, tu vois. Avec Mazzarri sur le papier, parce qu'on. Moi, c'est toujours pareil. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne dis pas ça va se passer comme ça. C'est des pistes de réflexion. Après, on verra. Ça se trouve, ça va très bien se passer. Ils vont finir champions et youpla boum, ça va être génial. Mais déjà, ça veut dire qu'il faudra être dans les quatre premiers pour ne pas faire moins bien que Garcia, puisque aujourd'hui, il laisse le club quatrième. Ligue des champions, c'est un peu différent, puisque la qualification
est assurée. C'est la partie, ouais.
Et s'ils sont éliminés en huitième, personne ne dira rien, quasiment, tu vois. Enfin, on ne pourra pas comparer Garcia et Mazzarri sur le huitième de finale, tu vois. Je comprends l'idée de se dire que peut-être qu'Italiano, Thiago Motta ou Farioli seront disponibles cet été. À ce moment-là... Je comprends le confort du choix Mazzarri que tu connais, à qui tu vas pouvoir imposer certaines choses. Peut-être que tu aurais pu aller chercher un entraîneur plus jeune, lui donner sa chance avec des principes de jeu plus proches d'un Spalletti, par exemple. Il y en a sur le marché. Bon, c'est un choix que je comprends parce que c'est le confort. Mais est-ce que ça m'enthousiasme? Bah non. Non, parce que évidemment, Mazzarri, on le connaît. De toute façon, ça va rentrer dans la caste des « Ah, mais on a perdu, mais parce qu'il y avait deux joueurs qui avaient de la fièvre. » Tu sais, le fameux « Il y a quatre joueurs avec la fièvre et un qui a joué avec la diarrhée à son époque. » Quand il est sorti ça en après-match, un jour parce qu'il aura trop plu, un jour parce qu'il aura eu trop de vent, un jour parce que ses ballons n'auront pas été assez gonflés, un jour c'est parce qu'il y avait un trou dans la pelouse, un jour c'est parce qu'il y a un supporter qui a oublié d'éteindre son téléphone dans les tribunes et tout le monde l'a entendu. Enfin, tu vois. C'est l'entraîneur l'entraîneur du passé, quoi. Qui a rien de moderne, mais encore une fois, peut-être que Peut-être qu'il y arrivera sur le papier, moi ça ne me fait pas rêver, mais encore une fois, on ne peut pas insulter l'avenir et dire ça va se passer comme ça. On ne le sait pas.
Ouais.
Si on juge par son premier passage, ok, le jeu très énergivore, la défense à 3, il avait fait des bonnes choses. Hein. Je veux dire, la réputation et les résultats du Napoli sont clairement améliorés lors de son passage de 4 ans, fin des années 2010, début des années 2000, fin des années 2000,
ouais, 2009-2013, ouais.
voilà, début des années
2009-2013.
2010. Avec les fameux Cavani, Lavezzi, Gargano, Zuniga, Maggio, Hamsik, bah évidemment,
Cavani.
De Sanctis, Cavani, enfin voilà. Ok, on le sait, le jeu très réactif, beaucoup de projections, etc. On verra si ça va marcher parce que être très réactif et avoir des joueurs qui courent partout pour récupérer des seconds ballons, bon, pourquoi pas. Et puis, il y a le truc, Guillaume, on l'a abordé tout à l'heure, le 4-3-3. Ça, on n'a pas l'info, donc on ne peut pas être catégorique, mais on a commencé à lire quand même beaucoup aujourd'hui, Guillaume, dans la presse italienne, que De Laurentiis avait convaincu Mazzarri qu'il fallait jouer en 4-3-3.
Ah mais c'est certain.
Chose que Mazzarri ne fait pas.
Non, défense à 3 pour Mazzarri depuis une juillet maintenant. Mais comme tu l'as dit, les deux se connaissent tellement et c'est un choix de confort. C'est que De Laurentiis, clairement, Mazzarri sera un relais de De Laurentiis. C'est une relation amicale que les deux ont. Donc il l'a rappelé pour l'intérim, honnêtement, Johan, aujourd'hui, c'est très rare d'avoir un entraîneur qui accepte 7 mois de contrat sans prolongation, sans option. C'est-à-dire que Mazzarri le sait, en fin de saison, ce sera merci et ciao. Faut aussi rappeler quand même les dernières expériences de Mazzarri, Johan, hein.
Ah oui.
Depuis l'Inter, où c'était mal passé, saison 2013-2014, c'est un passage à Watford,
Catastrophique.
2016, ouais, catastrophique, 2016-2017, un an, une saison, Cagliari. 2021-2022,
Pas bon.
pas bon du tout. Et là, il arrive à Naples.
Il y a eu le Torino où il y a eu à boire et à
Ouais,
manger.
il y a eu le Torino exactement entre 2018 et 2020, je crois. Donc voilà, on est aussi sur un entraîneur, tu l'as dit, du passé. Ça fait vraiment partie de. Mazzarri était un bon entraîneur, il l'est peut-être toujours. Et comme tu l'as dit, on peut pas le prévoir, honnêtement. On peut pas se prononcer. Libre à lui de nous surprendre, mais c'est certain qu'il fait pas partie de cette caste aujourd'hui. Des entraîneurs qui sont dans le giron, il fait partie, tu sais, Johan, des Ballardini, des entraîneurs comme ça, un peu à l'ancienne. Donc c'est très bien pour l'intérim, et c'est ce que voulait De Laurentiis, mais c'est certain que vu d'un œil extérieur, tu passes du Napoli de Spalletti, il y a pas si longtemps que ça, Johan, hein, c'était pas il y a 10 ans, hein, c'était il y a 6 mois, hein, au Napoli de Mazzarri, mais qui aurait pu le prévoir? Est-ce que tu imagines, Johan, on t'aurait dit ça en juin dernier ou en mai dernier, avant la fin de la saison, je t'aurais appelé, je t'aurais dit, écoute, Johan, l'année prochaine, le 15 novembre, sache que ce sera Walter Mazzarri qui entraînera Napoli. Mais c'est complètement lunaire. Et malheureusement, et on verra bien si ça marche ou non, mais c'est vrai que c'est un choix qui surprend, mais c'est aussi dans la lignée des derniers choix de De Laurentiis, on l'a dit, qui a ses fautes. Hein. La faute, Johan, de ne pas avoir remplacé Giuntoli, qui était une pièce maîtresse du Napoli. Du titre la semaine dernière, qui a placé un
Et
peu
en
ses hommes
plus
aujourd'hui à
de passer
direction.
son temps
Ouais.
à le dénigrer ensuite, hein, Guillaume?
Exactement, qui l'a pas remplacé, qui a mis ses hommes dans l'organigramme.
C'était quoi le
Et on
délire?
voit.
C'est Gvisha, c'est pas Giuntoli qui l'a
Oui, Gvisha,
découvert, c'est le fiston?
c'est son fils Eduardo.
Qui
Ouais,
peut
mais
croire à ça, sérieusement?
qui l'avait signalé. Mais en fait, voilà, en fait, on est vraiment sur une succession de choix qui ne paient pas. Alors, De Laurentiis le reconnaîtra pas parce que c'est pas beaucoup son genre, pour le coup. Mais c'est vrai que là, autant Tudor, je comprenais un peu l'idée. Alors, même si tu l'as dit, le schéma, c'est pas le même et c'est encore une autre. Mais disons que Tudor, ça serait un entraîneur qui aujourd'hui a une cote de popularité, qui est en ascension, qui a fait un bon travail à l'OM, qui a fait un bon travail à la Sverone. Donc, j'aurais pu comprendre l'idée et je trouve même que l'option de prolongation était plutôt pas mal, Johan, de se dire, bon, bah, je finis dans le top 4, je prolonge, ce qui est normal. Tudor, aujourd'hui, il a envie de s'inscrire dans la durée. On sait que, voilà, il a aussi une appétence pour la Juve, là où il a joué, là où il a entraîné en tant qu'entraîneur adjoint, donc il aurait bien retourné, mais je trouvais ça même assez logique et assez intelligent. Alors, ça s'est pas fait. Et bah, de ce que je peux dire, quand même, du côté des supporters, c'est forcément, il y a quand même beaucoup de déceptions aujourd'hui. T'as eu les mots justes, c'est comme si la saison était finie. On est au mois de novembre. On est au mois de novembre, t'as la Roma, t'as la derrière, ça va pas forcément mieux, mais T'as quand même l'Atalanta, la Fiorentina, tu sais pas si tu vas finir dans le top 4. Et tu,
mais t'as quoi de finir dans le top 4 sans problème hein. Enfin, vraiment.
Ah, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que, et même pour les joueurs, Johan, du coup, ils vont se dire on va se entraîner par quelqu'un qui, dans 7 mois, sera plus là. Enfin, voilà, c'est un choix quand même qui est hyper particulier et vraiment pas attendu. Dans l'idée du confort, je peux comprendre hein, voilà, l'amitié, la flexibilité de Mazzarri, mais. Au niveau du jeu, du futur, de ce que tu veux programmer, ouais, c'est un choix qui est quand même très, 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 très surprenant.
Et tu parlais des joueurs, Guillaume. Beaucoup ont évoqué la baisse de niveau de jeu entre Spalletti et Garcia, et il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, je veux dire, il suffisait d'ouvrir les yeux pour le voir. Mais est-ce que ça va être mieux avec Mazzarri, quoi? Tu vois, alors Mazzarri va bénéficier du soutien populaire dans un premier temps parce que entraîneur qui est passé par le club, qui apportait beaucoup de choses, qui était apprécié. Il suffit de voir certains commentaires hier à l'annonce de l'arrivée de Mazzarri. Ah, enfin, quelqu'un qui connaît le club, qui connaît les joueurs, machin, etc. Ok, pourquoi pas, mais après, il va falloir voir les résultats et le jeu parce que les supporters napolitains, s'ils sont cohérents. La Garcia, il lui reprochait peut-être même plus le jeu que les résultats, parce que finalement, comme je l'ai dit, tu étais dans les cordes, même si c'est pas extraordinaire. Là, il va falloir avoir la même exigence de jeu avec Mazzarri. Hein.
Pour le coup, tu fais
les dernières expériences vont pas dans ce sens-là.
Mais tu fais même parler de supporter, mais c'est vrai que le lien, pour le coup, c'est totalement coupé avec Rudy Garcia.
Ah, totalement. Enfin,
pour le coup, il y avait un.
Mais tu sais, je suis pas sûr qu'il ait déjà démarré. Hein.
C'est vrai aussi. Oui, franchement, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu trop de trucs lors de la conférence de présentation que les supporters napolitains ont noté et qu'ils n'ont pas trop apprécié.
Ouais, moi, je me souviens, raison, mais...
l'histoire de « je connais pas le passé », l'histoire de « aucune référence à Spalletti », etc. C'était noté par les éditorialistes du Napoli 2 heures après la conférence de presse.
Ouais, exactement. Mais c'est vrai que là, la colère qui s'est manifestée après Empoli dimanche... Après le match nul contre l'Union de Berlin qui a pas aidé aussi dans la semaine, il y avait vraiment un point de non-retour qui avait été acté. Mais pour le coup, sur le fond, t'as raison. Honnêtement, il y a jamais eu une histoire d'amour qui s'est créée. Après celle, et Johan, c'est un peu comme dans les couples en général dans la vie. Et là, c'est mon côté romantique qui va parler. Mais quand
vas-y, Eros Ramazzotti,
quand tu es fou amoureux d'une personne. C'est quand même compliqué de t'en remettre une fois que tu te sépares. Mmh. Et puis quand tu trouves un ou une autre derrière, voilà, t'as pas la même folie, t'as pas les mêmes sentiments, t'as pas la même force. Et c'est vrai que là, avec Rudy Garcia, l'étincelle n'a jamais eu lieu, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Ce qui aurait pu la provoquer, c'est vraiment une succession de bons résultats au tout début de la saison. C'est-à-dire, je sais pas, je te dis une bêtise, mais tu vois, 6-7 victoires consécutives, du jeu, du spectacle, surfer sur la vague Spalletti. Et là, c'est là où Garcia a fait l'erreur. Il a voulu couper drastiquement le lien, le cordon. Et du coup, l'histoire d'amour, elle n'a jamais démarré. Et sa fin était largement prévisible. Et malheureusement, pour Rudy Garcia, elle a été actée.
Et il y a un dernier élément, c'est qu'il y a des supporters napolitains qui reprochaient à Garcia d'être trop froid dans un environnement très chaud. Je ne sais pas si c'est tellement recevable parce que même si c'est un peu fermé depuis, je trouve, d'un point de vue vraiment d'observation extérieure, il est allé avec le même type de personnalité, mais je précise quand même qu'il s'est un peu refermé sur lui-même quand même dans les années, à Rome, avec le même type de personnalité dans un environnement aussi bouillant. Et ça avait bien marché, mais pourquoi ça avait bien marché? Parce qu'il y avait des résultats. Et les résultats avaient beaucoup aidé. Souviens-toi, première saison, 10 victoires d'affilée.
Exactement.
10 victoires. Donc ça avait tout de suite pris aussi et les petites phrases que disait Garcia en conférence de presse, les supporters se les passaient en boucle, etc. Sauf que là, les petites phrases que disait Rudy Garcia en conférence de presse, ça passait en boucle, mais pour s'agacer.
Et ça passait plus.
Les résultats et le jeu, parce qu'à la Roma, il y avait les résultats et le jeu. Là, il y avait, en gros, pas le jeu et des résultats que beaucoup de supporters ont estimés décevants en ce début de saison. Ça a forcément coincé en termes de
personnalité. Et il avait même la com, Johan, à l'époque. Il avait aussi la com, tu te souviens, le violon, l'église au milieu du village.
Ouais, bien sûr.
Il avait ces petites phrases qui marchaient avec la presse italienne. Et ce que fait même encore José Mourinho à Rome aujourd'hui, ou même avec la presse romaine, ça marche toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la com, même là, il y avait des choix qui étaient difficilement compréhensibles. Mais c'est vrai que les justifications derrière la conférence de presse, ne l'était pas plus. Et en fait, il a jamais su même convaincre au-delà du terrain. Et il a comme, voilà, où il était quand même maître à l'époque, parce que il y a quand même des petites phrases qui sont restées dans les annales du calcio. Il y a eu aussi un moment où c'est pas des billets qu'il avait tendus, ou c'était
je sais qu'il y avait une histoire comme ça en conférence de presse, un rapport avec Palota, je sais plus quelle était la question, etc., et on lui parlait d'argent et tout, il avait
voilà. sorti un billet, ouais. Exactement, le violon après le match contre la Juve, voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de choses, et aujourd'hui à Naples ça n'a jamais pris sur et en dehors du terrain, et ça que la com qui pouvait lui réussir, il y a ça, parce qu'on sait que c'est un communicant plutôt habile. Pour le coup, même Anna, com... on a besoin de ça.
Mais la com va avec les résultats aussi.
Aussi, et bien sûr.
Et
bien sûr.
Quand il n'y a pas les résultats ou le jeu, la com a tendance à t'irriter. Alors que quand tu gagnes, tu trouves ça rigolo et bien joué, les petites piques, etc.
Alors là, qu'à Rome, actuellement, Johan, finalement, tu sais, il n'y a pas forcément les résultats, mais la com, José Mourinho, il la manie plutôt pas mal.
Ouais, pour le coup, Mourinho, pour les médias romains. Après, il y a des gens qui sont de moins en moins dupes, mais Mourinho, il surfe simplement sur la Coupe d'Europe qu'il a gagnée.
Ouais.
Il continue à surfer là-dessus, il surfe que là-dessus en fait. Et puis la finale de l'année dernière, quand même, il ne faut pas lui enlever. Mais oui, oui.
C'est un autre débat.
Non, mais dans la com, tu vois, les histoires de pourquoi tu as fait tel remplacement, bah, parce qu'il s'est bien entraîné et je voulais le récompenser. Enfin, je sais pas, c'est pas. Tu avais un match à gagner, c'était pas là pour donner une bonne image, parce que le mec a appris sa table de multiplication, tu vois.
Pas que l'arrache qu'il y a sur le banc pendant, alors que ça va être la trêve, tu vois, forcément. C'est des choix qui t'aident pas. Et pour finir, voilà, parce que moi, j'aime beaucoup Paulo Condo, et c'est vrai qu'il l'a écrit dans la Repubblica lundi dans son édito, il disait, il a vraiment aligné dimanche à 11, qui est appelé au licenciement. Dans l'idée, tu vois, mais c'est vrai que son 11, faire rentrer Guevara en deuxième mi-temps, et ça devient ton meilleur joueur. Enfin, au bout d'un moment, c'est comme, tu sais, s'il le cherchait, aligne la meilleure combo possible, juste avant la trêve, en plus, et puis voilà, essayer de le sauver quand même, pour avoir 2 semaines plus tranquille. Là, pour le coup, c'est vrai que bon, t'as quand même un peu cherché, malheureusement, ce qui t'est arrivé le lendemain.
Voilà ce qu'on pouvait évoquer, mon cher Guillaume, du changement d'entraîneur en ce début de saison. On est encore un peu au début de saison, milieu de saison du Napoli. Ça arrive très tôt, 15 novembre, évidemment. Guillaume, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, il faut mettre des étoiles. Sachez que je vais aller. On a eu encore beaucoup d'étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, et je vais de suite remercier. Prono 1, 2, 3. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de pseudo. Voilà. Loïc, Nizi et Chris, pour avoir laissé en plus un commentaire en plus de leurs 5 étoiles.
D'ailleurs, on va citer les 5 étoiles maintenant. Dès que quelqu'un mettra 5 étoiles, on le citera dans le
podcast. Évidemment, évidemment.
Ce sera un juste mérite. En plus, ouais, c'est très rapide. Hein.
Ouais, rapide, ça prend 5 secondes. Ça prend 5 le commentaire, secondes, 5 ça étoiles. Prend 30 secondes.
Ah, évidemment, évidemment.
Mais juste si les 5 plaît, étoiles, ça prend voilà. 5 secondes. Et Spotify, il n'y a pas de commentaire, mais il y a les étoiles et on en a pris aussi pas mal. Donc, on vous remercie parce que ça aide à remonter dans les classements. Pour vous donner une idée, sur la semaine dernière, on était dans le top 10 des podcasts de foot en France. Donc, c'est plutôt cool. Donc, merci à ceux...
Merci tout le monde. Ouais.
Parce que quand on met des étoiles, ça fait remonter le podcast dans les classements. Et donc, quand les gens cliquent sur le classement pour découvrir des émissions, eh ben, ils découvrent Calcio et Pépé. Donc, n'hésitez pas à le faire également. Voilà, Guillaume, pour ce podcast 100% Napoli. On reviendra très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé. Et d'ici là, on se dit à très vite. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.